Garrett, j'ai un service à te demander. Je t'en supplie, tu es le seul qui peut m'aider.
Je ne fais pas dans les bonnes œuvres, Basso.
Je te paierai. Ma fiancée Geneviève est séquestrée chez Lady Rumfo. Je lui ai... Elle lui a signé un contrat de servitude. Tu dois la sortir de là. Je sais que l'infiltration est ta spécialité.
Les gardiens m'ont bien formé à ce genre de besogne. Mais je ne travaille plus qu'à mon compte maintenant. Ce genre de job possède une trop grande charge émotive. Demande à quelqu'un d'autre.
Garrett, Lady Rumfo est très, très riche. Je suis sûr que tu pourrais trouver ton compte dans cette affaire.
Et après, tu me seras redevable. Dans ce monde, on n'a jamais assez d'alliés.
Excellent.
J'entrerai chez Lady Rumford la nuit tombée. Je tâcherai de faire un chemin pour que tu puisses aller secourir ta demoiselle en détresse. Entre-temps, je vais aller acheter quelques souvenirs au pawn shop du coin.
Voilà une avance. J'ai misé sur moi-même au dernier match de boxe.
Très perspicace. Rendez-vous à la fontaine du pendu, minuit.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes en ce lundi 3 novembre 2008, tout juste après 17h, Vincent Langlois au micro, pour l'émission Puissance maximale sur les ondes de CKIA, votre magazine hebdomadaire sur le monde ludique ainsi que sur la culture geek. Puissance maximale, et je suis en compagnie de François G. Couillard à la console.
Salut Vincent.
Salut François. Christian Lacroix également.
Bonjour, gros.
Hey François, Christian, qu'on n'entend pas vraiment, je crois. Je ne l'ai pas vraiment entendu, mais ça peut fonctionner quand même. Et bien sûr, Alexandre Bélanger également est ici.
Salut.
Hey Alex. Alors, messieurs, juste avant de commencer, un petit tour de table sur ce dont vous allez parler aujourd'hui, Alexandre.
Oui, moi ici je fais habituellement une chronique sur la musique de jeux vidéo et aujourd'hui on va se centrer sur le phénomène derrière Final Fantasy.
Oh, et de ton côté Christian?
Oui, ben moi je vais vous parler d'une belle série de Mongoose Publishing, donc c'est un livre pour le jeu de rôle.
Excellent, de mon côté je vais vous faire un petit retour sur ma semaine Fallout 3 qui est sorti la semaine dernière, mardi dernier, et faire une petite critique de ce jeu-là. Je suis certain que pour les gens qui ont aimé les Fallout antérieurs, oui, mais moi j'ai jamais joué, mais j'ai entendu dire que c'était quand même assez excellent. Mais pour ceux qui sont des Bethesda, des amateurs de tout ce que Bethesda fait, du style Oblivion, Morrowind, vous allez vraiment aimer. Alors, on va commencer tout de suite avec Alexandre, en chronique, avec Final Fantasy.
Eh oui, vous vous souvenez peut-être de mes collaborations passées où je parlais du Nintendo, du Super Nintendo, surtout par rapport à la musique, évidemment. Et la dernière fois que j'étais présent à ces lieux, en votre compagnie, on a mentionné Final Fantasy. On en a même discuté un bout par rapport au Super Nintendo. Et Final Fantasy nous aura laissé une grande marque au niveau musical, Et toutes les générations de consoles ont été touchées par le jeu, par ce titre-là. Tout d'abord, c'est quoi Final Fantasy? C'est un RPG. Vous savez sûrement c'est quoi, vous, amateurs d'RPG. Là, c'est, on parle vraiment d'un RPG sur console. Ça a été publié par Squaresoft, c'était leur jeu de la dernière chance en 86. Et parmi l'équipe des créateurs, il y avait Nobuo Uematsu, qui est devenu, qui a été tout d'abord le premier et unique compositeur de la musique et qui est devenu le seul compositeur de tous les jeux Final Fantasy jusqu'au 9e.
Jusqu'au 9e?
Oui.
C'est impressionnant.
Qui a été le seul compositeur, Nobuo Uematsu. Donc c'est beaucoup de lui qu'on va parler aujourd'hui et moins des nouveaux compositeurs qui se sont ajoutés sur les versions 10, 11 et 12 et 13 qui s'en vient bientôt. Donc, la musique, c'est un facteur primordial du succès de Final Fantasy. Et pour ceux qui connaissent le jeu, ils savent très bien à quel niveau c'était. C'est sûr que Final Fantasy offrait beaucoup de choses au niveau du RPG, de l'inventivité, surtout par rapport à son concurrent initial qui était Dragon Quest, Dragon Warrior, sur le Nintendo 8-bit. Mais Final Fantasy est arrivé avec une coche en haut sur beaucoup d'aspects, dont celui de la musique. Et d'ailleurs, à travers tous les jeux qu'il y a eu là, sur les différentes consoles, il y a toujours eu des musiques récurrentes. Vous vous souviendrez peut-être des succès tels que Prélude ou Chocobo.
Ouais, la musique de Chocobo, oui.
Entre autres, ou la fanfare, ou le thème général qui s'intitule Final Fantasy et qui va jouer à la fin de la chronique.
Ouais, oui.
En version orchestrale, s'il vous plaît. Donc, au Nintendo, on parlait vraiment de musique minimale. Ensuite, au Super Nintendo, ça a glissé un peu plus au-delà de l'orchestration. Là, on voyait là, Nobuo Uematsu intégrer peu à peu des instruments divers et ça allait au-delà de l'imitation d'un orchestre. C'est sûr que l'évolution de la puce musicale dont j'ai parlé la dernière fois, la dernière chronique, aidait beaucoup à une méga orchestration sur le Super NES. Et d'ailleurs, bon, Final Fantasy VI, dont on a parlé, qui est sorti Final Fantasy III en Amérique, là, mais là, je vous épargne les détails sur cette histoire Japon-Amérique. Et Final Fantasy VI est connu comme une des meilleures trames sonores jamais composées dans l'histoire des jeux vidéo.
Ah oui, Final Fantasy VI?
Oui. Et selon moi, elle n'est pas prête d'être égalée. On peut parler d'un grand classique. Et si vous voulez vraiment connaître la grande musique... Et d'ailleurs, c'est ce dont on avait parlé spontanément entre nous ici, l'équipe de Puissance Maximale. On avait parlé vraiment de l'opéra, qui est un moment marquant du jeu.
Mm-hmm.
Donc, j'ai parlé beaucoup de Nobuo. Lui, s'inspirait beaucoup de ces deux musiques épiques, orchestrales. Étant donné que c'est un role-playing game, on a affaire à des épées, des donjons, des dragons, etc., de la magie, surtout des cristaux. On le saura. Donc, c'est beaucoup une inspiration classique, néo-classique, de l'époque romantique qui ont inspiré la plupart des musiques. Mais, entre autres aussi, au-delà de ça, Nobuo voulait vraiment transcrire l'émotion à travers sa musique. Et je pense que ça a été une réussite, là, réellement. Là. Il réussissait à amener la bonne émotion. Des fois, des thèmes d'amour, des fois, des thèmes plus menaçants. Là, derrière, ici, c'est Troops March On, qui est une reconstitution de dont la musique de l'armée, un peu des ténèbres dans le jeu, le sixième jeu.
Mais dis-moi, Nobuo, lui-même, c'est un japonais. Est-ce qu'on sent l'influence japonaise dans la musique ou pas du tout?
Je dirais non. Mais souvent, les Japonais vont chercher un peu de tout, tout bord, tout côté, dans toutes les cultures. Peut-être au niveau du perfectionnement extrême de la musique, c'est peut-être là qu'on voit l'influence japonaise. Parce qu'on sait que les Japonais... vise souvent des perfectionnements complètement impensables pour nous occidentaux. C'est beaucoup la facture générale des pièces et qui bon, c'est à ce niveau-là, je dirais qu'il y a, mais il y a pas vraiment d'influence de la musique traditionnelle japonaise parce que là on est vraiment dans des contextes sci-fi si je peux me permettre, fantastique, cyber fantastique, là un fantastique de l'époque moderne. Aussi, bon, il misait beaucoup sur la mélodie pure, la complémentarité de l'harmonie dans les instruments. Il y a vraiment des grosses recherches. Et si jamais vous jouez du piano ou de la guitare ou de quoi, et vous essayez de retranscrire ces mélodies-là avec votre instrument, vous allez découvrir vraiment qu'il y a des harmonies très complexes et que c'est plutôt difficile à faire.
J'ai l'impression que tu as déjà essayé toi-même.
Oh, oui, tout à fait. Mais moi, tu sais, Je fais abstraction de moi-même, bien sûr, hein, en parlant de tout ça. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a eu des dizaines et des dizaines d'albums qui sont sortis inspirés de Final Fantasy. Des albums surtout sortis au Japon. Pour chaque jeu, il y a eu la soundtrack officielle, la trame sonore officielle du jeu. Mais il y a aussi des versions orchestrales. Il doit y avoir au moins une trentaine d'albums en tout, là, de tout ce qui existe autour de Final Fantasy. Dont, par exemple, des collections pour piano, avec un livre de musique qui accompagnait l'album. Et c'est une excellente source, d'ailleurs, pour les apprentis musiciens qui veulent apprendre les mélodies complexes et les harmonies terribles de ces jeux. Entre autres, aussi, il y a le concert hommage, le premier concert hommage qui a été donné par le Tokyo Philharmonic Orchestra. C'est un album qui s'intitule 2002-02-20. C'est un genre de jeu de mots, jeu de chiffres. Et c'est un très bon album avec les succès. Il y a aussi la musique de film du film Final Fantasy VII Advent Children, un film inspiré du jeu Final Fantasy VII, qui est le grand succès sur PlayStation 1, qui a rendu le phénomène mainstream. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous apercevez que j'ai un gros débit, là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Il y a un film qui a eu beaucoup de succès, hein, même si les gens connaissent pas nécessairement Final Fantasy, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce film-là.
Advent Children. Et bon, la trame sonore a été faite aussi par Nobuo Uematsu, toujours inspiré de la musique de jeu. C'est une excellente trame sonore. Il y a aussi Black Mages, sur lequel j'aimerais revenir dans l'avenir, donc je veux pas trop en parler. C'est le groupe metal progressif de Nobuo. Il a abandonné un peu Squaresoft pour se consacrer à son band. C'est The Black Mages, inspiré des mages offensifs, de magie offensive dans les Final Fantasy. Et c'est Black Mages. Et un jour, je vous en reparlerai. Et il y a eu Celtic Moon aussi, de la musique toute reconstitution en celtique d'un jeu, c'est Final Fantasy IV qui a été reconstitué en musique celtique. Et encore des collections avec la musique vocale, avec des chanteuses japonaises. Si vous aimez ça, les japonaises, messieurs, c'est merveilleux pour vos fantasmes à la maison. Donc, c'est un bref aperçu des nombreux albums qui existent. Et si vous vous intéressez vraiment à ces musiques-là, que vous voulez en écouter en travaillant sur votre ordinateur ou en chattant, vous pouvez toujours visiter le Final Fantasy Shrine. L'adresse est ffmusic.ffshrine.org sur le protocole HTTP. c'est ce qui conclut ma chronique, et avec, bien sûr, la musique Final Fantasy Theme, c'est la musique qui revient dans tous les jeux, et ce n'est pas le prélude, c'est vraiment le thème grandiose de Final Fantasy, et c'est en version orchestrale, d'ailleurs je crois pris sur la version le concert hommage joué par le Tokyo Philharmonic Orchestra. Alors à bientôt.
C'est bon, merci Alexandre.
Merci beaucoup Alexandre, et on va revenir dans quelques instants, on va écouter cette pièce-là.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
Toujours sur les ondes de CKIA et on va, vous savez, en fin de semaine, messieurs et chers auditeurs, c'est la Fiesta Ludique 2008 à Montréal qui sera présentée au Collège Ahuntsic, qui est au 9155 rue Saint-Hubert à Montréal. Et ce sera entrée gratuite pour tout le monde au collège pour la Fiesta Ludique. Nous avons en entrevue Martin Bouchard de Philosophia. Bonne fin d'après-midi, Martin.
Oui, bonne fin d'après-midi.
Alors, on s'est parlé il y a quelques semaines de cela pour la Fiesta Ludique. Depuis ce temps, beaucoup, beaucoup de choses ont été rajoutées, en fin de compte, sur le site Internet de la Fiesta Ludique, dont quelques apparitions, bien sûr, tout d'abord, la présence de Friedman Freeze à votre festival.
Oui, Friedman, qu'on a vu justement à Essen la semaine dernière, qui va être là pour présenter... Rivière d'enfer, une nouveauté, super amusant, où est-ce qu'on dévale des rapides en radeau.
Donc un jeu de plateau, on s'entend?
Pardon?
C'est un jeu de plateau, parce qu'il faut dire que Friedman Freeze, c'est un créateur de jeux de plateau.
Ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que justement, les parcours, il y a 6 plateaux recto-verso, et on peut composer sa rivière comme on veut. Puis, donc, il va y avoir plus ou moins de bio sur la rivière, et c'est un jeu où est-ce que tous les coups sont permis. C'est vraiment amusant. Puis après ça, Megawatt aussi, qui est la version française de Power Grid avec Carte du Québec.
D'accord, alors M. Freeze sera là présent justement pour aussi sûrement prendre les commentaires des différents joueurs, peut-être rencontrer les gens?
Oui, exactement, rencontrer les gens, jouer avec eux, etc., etc.
Du côté des autres choses qui ont été ajoutées, en fin de compte, de ce qu'on a vu dans la dernière semaine, la présence de Cédric Caumont, que moi, personnellement, je ne connais pas. Est-ce que vous pourriez nous en parler, M. Bouchard?
Ben, Cédric, nous, on connaît, parce qu'on se côtoie depuis quelques années sur les salons des SN, la Gen Con. C'est un des deux créateurs de Repos Production, donc qui nous ont donné Time's Up, Cash and Guns et présentement Ghost Stories et Pit. Et ce qui est vraiment le fun avec l'équipe de Repos Production, c'est que ces deux gars-là, Cédric et qui sont très le fun à voir aller dans les salons et tout ça. Ils font des animations incroyables. Ils mettent vraiment le party dans la place.
C'est super. Et au niveau des autres interventions, ben, M. Fall à Montréal, c'est une personne qui s'occupe d'un site Internet sur les jeux de société?
Donc, c'est le site Trick Track qui est connu partout, je dirais, dans le milieu francophone. Toute personne qui s'intéresse, commence à s'intéresser un peu aux jeux de société, ça devient presque le site de référence, là, où est-ce qu'on va aller consulter pour avoir des fiches de jeux et tout ça. Puis, lui, il parcourt tous les salons, il fait des reportages, toute l'actualité se retrouve sur son site Internet. Et c'est ça, il a réussi à justement insérer une petite visite à la Fiesta Ludique dans son calendrier qui est déjà super chargé.
C'est super. Et au niveau des exposants, il y aura plusieurs compagnies d'édition qui seront présentes?
Oui, il y a Philosophie Édition, évidemment. Cocktail Games qui est là, Asmodée, Repos Production, comme je disais, avec Cédric qui vient être là pour l'animation. Il y a Gigamic Abba, où est-ce que on va avoir des coins pour les plus jeunes. Ce qu'on fait, c'est qu'on invite les parents justement à venir jouer avec leurs enfants. On a des jeux pour tous les âges, super variés. Après ça, on a aussi Schmidt qui va être présent, Days of Wonder. On a aussi PokerCast, France, qui est l'auteur du jeu, qui va assurer l'animation de PokerCast. Je ne sais pas si j'en oublie.
Moi, j'avais une question, M. Bouchard. Est-ce que tous ces gens-là vont vendre des jeux? Parce qu'on sait que vous avez parlé de nouveautés comme Ghost Stories, qui sont très attendues, aussi Megawatt, il y en a d'autres. Est-ce qu'ils vont être disponibles à l'achat?
Oui, les jeux sont disponibles à l'achat. Dans certains cas, par exemple, si on y va avec Ghost Stories, il sera pas disponible sur place parce qu'on ne réussira pas à avoir les stocks à temps. Pour Megawatt, oui. Pour les dernières sorties, À l'ombre des murailles, Rizière d'enfer, la plupart des dernières nouveautés vont être disponibles sur place.
Ah, très belle nouvelle, merci.
Et les créateurs, en plus, vont être là, vont pouvoir les toucher et peut-être même qu'ils vont pouvoir signer nos jeux.
OK, quoi?
Ben, j'imagine qu'ils vont voir que les créateurs sont là, donc ils vont pouvoir signer les jeux, donc ça va être doublement gagnant, là.
Les créateurs?
Oui.
Ben, à part Friedman Freeze, c'est le seul qui sera sur place.
OK. D'accord. Et Friedman Freeze, lui, c'est un Allemand, si je ne m'abuse. Donc, il va falloir parler avec lui en allemand ou faire des signes?
Ben, il parle très bien en anglais.
OK, très bien.
En anglais.
D'ailleurs, la semaine prochaine, Puissance Maximale aura une émission en direct de la Fiesta Ludique et on aura en entrevue Friedman Freeze, justement. Alors, il va falloir qu'il parle au moins en anglais. Il sera doublé, en plus. Puissance Maximale, d'ailleurs, on va faire de l'animation là-bas. On va animer une table de Time's Up, de Hands Up.
Oui.
N'est-ce pas?
Aussi, vous allez animer...
Rythme et Boulet.
Rythme et Boulet. C'est vraiment excellent. Ça, c'est encore une fois un jeu pour vraiment mettre le party dans la place. Un jeu musical où est-ce qu'on se tape dans les mains, sur les cuisses et on fait plein de signes. C'est vraiment rigolo.
Sinon, il y a aussi Olivier Lamontagne, qui est un créateur québécois, là, créateur bien de chez nous, qui va animer une partie de Cash and Guns live. C'est quoi, c'est exactement ce jeu-là?
Cash and Guns, c'est un jeu où est-ce que, bon, ben, on est tous des gangsters et ce qu'on essaie de faire, c'est que on essaie de récupérer la plus grande partie du butin. Et ce qu'on fait, c'est que bon, à chaque round, les gens vont à go pointer un membre d'une équipe adverse. Et après ça, on va...
Avec un fusil en plastique, faut le dire.
Oui, oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, c'est même avec les doigts.
OK, avec ses doigts, OK, c'est beau.
Des pistolets en mousse. Et donc, complètement inoffensif. Et dans celle qu'on va jouer, qui est Cash and Gun Live, où est-ce qu'on joue à plus de joueurs encore, celle-là, c'est on pointe avec les doigts.
OK. Donc, Olivier Lamontagne, qu'on salue, là, on a fait une entrevue avec lui à Grande Bay. Il a inventé l'excellent jeu Boom Patate, ainsi que Gurnouille et Mitril et bien d'autres. Donc, ensuite de ça, il va y avoir aussi des qualifications pour un jeu de course, un jeu de plateau de course qui s'appelle Grand Prix Formula D.
Oui, c'est ça. Ben, Formula D, ça se trouve à être la nouvelle édition de Formule D qui était déjà connue. Ben, en fait, c'est un classique dans jeu de plateau de course automobile. Il a été complètement refait par Asmodée. La version est vraiment super belle et donc complètement relookée. Et avec la différence avec l'ancienne version, là, où est-ce qu'on prenait tout, on notait toutes les améliorations ou par exemple ce qu'on utilisait sur notre voiture avec un crayon. Maintenant, c'était remplacé avec une petite boîte de vitesse, avec un levier de vitesse et tout ça, et ça se manipule super bien. Puis les plateaux sont réversibles avec une course de streetcar qui introduit des personnages qui ont chacun leurs propres habiletés. Donc c'est cette version-là qu'on va jouer en tournoi, mais plutôt en grand prix. Et ce qu'on fait, c'est que pendant la première heure, les joueurs sont invités, inscrits, pas inscrits. Là, c'est sûr que nous, on a déjà pris des réservations. Mais les joueurs qui sont pas déjà inscrits vont voir aussi venir essayer de tenter leur chance puis pour se qualifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 6 meilleurs temps et les 6 meilleurs vont justement participer au Grand Prix, donc à une espèce de finale.
J'imagine qu'il y a un prix à gagner, c'est quoi?
Le prix à gagner, c'est une copie du nouveau Formula D.
OK, logique. Alors, évidemment, on joue à ce jeu et on a quoi la chance de le gagner. Toujours le bienvenu. Sinon, Philosophia, bon, vous n'êtes pas les seuls à participer à cette fiesta ludique. Il y a plusieurs, comme tu te dis tout à l'heure, il y a plusieurs autres compagnies de jeux. Et mais vous, Philosophia, est-ce que vous allez faire une surprise? Est-ce que vous allez présenter peut-être des jeux en primeur à cet événement-là ou quelque chose comme ça?
En fait, ben, ce qui est présenté en primeur, c'est ce qui vient sortir. Donc, c'est plusieurs titres qui viennent tout juste de sortir. Alors, tout ce qui a été présenté la semaine dernière à SN... est venu par avion pour justement pas rater la fiesta ludique et pouvoir être présenté dès le début novembre.
D'accord, alors c'est ce qui m'a fait notre entrevue. M. Bouchard, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et on se donne rendez-vous à la Fiesta Ludique 2008 ce samedi 8 novembre entre 10h et 20h et ce dimanche 9 novembre entre 10h et 18h.
Merci. Samedi donc.
Oui, on se voit samedi. Alors, on va passer en musique, François, tout de suite?
On va écouter une pièce de Musax, donc notre ami français Yannick, musax.info, qui a un Z et un X. Donc, ça va être une pièce qu'il va nous présenter lui-même. C'est ça la magie.
Les jeux de la série des Super Smash Bros. Rassemblent les personnages cultes des jeux vidéo Nintendo. Le but de ces jeux de combat est d'éjecter son adversaire de l'arène et, si possible, lui porter le coup ultime appelé Smash.
Maintenant, l'heure de la chronique jeux vidéo. Et oui, moi, en fin de compte, depuis la semaine dernière, en fin de compte, comme plusieurs joueurs, on attendait la sortie ce 28 octobre du jeu Fallout 3.
De Bethesda,
Bethesda, oui, qui est quand même une compagnie qui a une renommée assez incroyable avec ce qu'ils ont fait des Elder Scrolls.
Ils ont du torque.
C'est assez incroyable. Alors oui, on était plusieurs à attendre ce jeu-là, dont moi et Christian Lacroix ici présent. Fallout que j'ai essayé toute la semaine, en fin de compte, ben toute la semaine. J'ai joué quand même une dizaine d'heures déjà depuis le 28, juste pour le tester et pouvoir vous en faire une critique.
Ouais, c'est vraiment sacrifié pour puissance maximale.
Ah, c'est clair. Moi, aussitôt que j'ai un jeu entre les mains, je me sacrifie tout le temps. Alors, jeu de rôle à la première ou à la troisième personne, c'est au choix du joueur, en fin de compte. Un peu plus intéressant à jouer à la première personne, selon moi. Je sais pas si Christian est d'accord avec moi à ce niveau-là.
Ouais, pour l'immersion, peut-être.
Également, c'est ça. Même la troisième personne, c'est plus ou moins réussi au niveau des déplacements.
Puis est-ce que le personnage, par contre, s'améliore quand on change son équipement? Ça change sur son...
Oui, c'est ça, en plein ça. Les équipements sont changés.
C'est peut-être ça, au moins, l'avantage de jouer en troisième personne.
Oui, ça pourrait être ça aussi, mais quand même, il est bien fait pour la première. On voit vraiment où on vise, puis tout ça. Ouais. Donc, disponible, comme je disais, depuis le 28 octobre dernier. Moi, j'ai fait le test sur Xbox 360, mais c'est aussi disponible sur le PS3 et le PC, fait par Bethesda, développé par Bethesda.
Et il y a beaucoup de critiques, par contre, pour la version PS3, apparemment.
Oui, j'ai entendu dire que la version PS3, il y avait beaucoup de au niveau du graphisme. Des c'était sonores. Pas toujours réussi. Quelques bugs sonores également. Ouais. Donc, moi, je n'avais entendu parler, sauf que je suis un habitué du Xbox 360 en ce qui concerne les jeux de Bethesda, là, les Elder Scrolls, Morrowind, qui étaient sur la Xbox originale, et Oblivion. Donc, j'ai décidé d'y aller avec le même type de console, le même type de contrôleur pour ça.
Oui, puis un autre avantage, c'est qu'il y a des trophées. Tout ça qu'on n'a pas sur la PS3.
Oui, en fin de compte, sur la PS3, les trophées devraient peut-être arriver, mais on dit toujours peut-être qu'il y en aura. Sauf qu'une fois que les trophées arrivent, ben ce qui arrive, c'est qu'on doit recommencer le jeu si on veut bénéficier des trophées antérieurs.
Donc, alors que sur Xbox 360,
on a déjà les achievements qu'ils appellent dans le bon français.
Ouais.
Alors, un jeu à un joueur, puis il se détaille environ 65$. Ben, qu'est-ce que c'est l'histoire? Au total, ben, on incarne un jeune adulte, on donne notre nom ou le nom qu'on veut, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de nom, qui parcourt les débris d'un Washington post-nucléaire, post-apocalyptique, à la recherche de son père.
Joué par Liam Neeson.
Eh oui.
Cette fois-ci, c'est juste dans une ville.
Oui, en fin de compte, c'est Washington et les environs, mais c'est vraiment, la carte est quand même assez grande.
Oui, puis on passe de côte ouest à la côte est. Là.
Assez impressionnant.
Par rapport aux anciens numéros.
Oui, c'est ça. Donc, on suit le personnage dès sa naissance, série de quêtes principales et secondaires, comme on connaît bien sûr. Dans ces jeux-là, on se promène dans un monde rempli de mutants et d'ennemis qui nous apparaissent un peu partout. Donc, un monde aussi rempli, plein de radiations. Qui est une chose qui peut nous faire mourir, où on doit contrôler également les radiations tout au long du jeu. Ça peut se faire aussi en compagnie de notre fidèle compagnon qui apparaîtra à un moment donné. Moi, après 10 heures, je ne l'ai pas encore vu, sauf que je n'ai pas vraiment fait la quête principale. Je suis allé beaucoup dans les quêtes secondaires, ce qui fait que c'est un peu normal aussi qu'après 10 heures, je ne l'ai pas vu. On pourra peut-être le voir après 5 heures.
C'est un jeu très long, faut le dire quand même.
Oui, mais en fin de compte, pour la quête principale, on disait une 20aine d'heures, mais si on rajoute toutes les quêtes qui sont à côté, ça peut aller jusqu'à 100aine d'heures.
Puis ce genre de jeu-là, c'est rare, les gens se contentent de la quête.
Non. Ben, moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que je fais souvent les quêtes secondaires avant les quêtes principales pour monter un peu ce qu'on appelle les levels.
Voilà.
Sauf que je dois avouer que dans les quêtes, présentement, les quêtes secondaires, je les trouve assez difficiles.
Mm-hmm.
La quête principale est un petit peu plus facile et c'est ce que j'ai remarqué par rapport aux autres jeux de Bethesda qui étaient Morrowind et Oblivion. J'avais un petit peu plus de facilité. Donc, ce qui paraît, les quêtes, il y en a un petit peu moins dans Fallout 3. Mais elles sont beaucoup plus difficiles, c'est ce que j'ai remarqué.
Et plus variées aussi pour la fin. On peut les finir de plein de façons, de façon violente, de façon diplomatique, etc. Ce qu'on ne retrouve pas dans Oblivion.
Oui, c'est en plein ça. Ouais. Au niveau des effets visuels, l'ambiance du jeu, ben, les graphiques sont extrêmement bien réussis, bien sûr. Si vous avez joué à Oblivion, qui est sorti il y a déjà 2 ans et demi, vous avez vu ce que c'était, ben, c'est un Oblivion en amélioré. Là. C'est assez impressionnant de voir. Quand on sort dans le monde de Washington DC autour, là, c'est assez impressionnant de voir le Waste Land qui appelle en fin de compte, c'est assez impressionnant. Très belle définition des objets, des édifices, des personnages, les lieux, une bonne fluidité dans les mouvements, que ce soit les mouvements latéraux, comme les jeux de caméra, les déplacements des personnages. J'ai vu quelques lags légers quand même. Là. Au niveau, quand on se déplace, c'est quand même un jeu qui est chargé, il y a beaucoup de choses. Donc, en avançant, parfois, il y a un lag, mais il n'y a rien pour dire que ça
brise.
Ça brise ou que ça freeze là, pendant 5 secondes. Non, c'est une fraction de seconde. C'est pas nécessairement extraordinaire ou qui nous dit bon le jeu est mauvais à cause de ça. Vraiment pas.
Par contre, il y a peut-être une petite chose à dire sur Bethesda, c'est surtout leur jeu. Ça reste, c'est la tête de rigueur, moi je trouve, des personnages non-joueurs. Là. Ça, c'est très, très, comme on dit, stiff, là, oui. En bon anglais. Tout le monde est droit, là, puis les épaules barrées.
Ça avance toujours dans le même type de pop, ça vient de parler de la même façon.
C'est ça. Puis il y a peut-être ça, là, mais ça s'est amélioré. Là, quand
ça s'est amélioré, mais c'est certain que on n'arrivera pas à quelque chose de nouveau. Moi, j'ai toujours l'impression, bon, je vais découvrir un nouveau jeu dans les différentes compagnies. Je pense à Rockstar. Le dernier Grand Theft Auto qui est sorti en avril, je me disais, wow, j'ai hâte, ça va être incroyable. Mais en fin de compte, au total, ça ressemble au Grand Theft Auto antérieur.
En mieux, un peu, c'est ça.
En mieux, justement. Bethesda, ce qu'ils font avec Fallout 3, ça ressemble étrangement, oui, à Oblivion ou à Morrowind dans ce style-là. Certain que c'est pas la même époque, c'est pas le même type d'armes qu'on utilise. Sauf qu'au total, on s'aperçoit que... Ouais, il y a quand même des ressemblances, c'est certain, c'est la même compagnie qui l'ont fait. Mm-hmm. L'ambiance musicale est assez réussie, musique d'ambiance générale, qui devient un peu plus mouvementée à l'approche d'ennemis, comme à l'habitude, quand on bat l'ennemi, ou quand ça se régularise autour, on retourne dans une ambiance musicale normale. On a le Pip-Boy 3000, qui est notre appareil qu'on met sur le bras, qui nous permet de faire plein d'affaires, et il nous permet même d'aller chercher des postes musicaux de ce Washington DC post-apocalyptique, et d'avoir quelques musiques...
Il y a la radio dans le monde détruit.
La radio dans le monde détruit, justement, il y a un personnage qu'on doit rencontrer au début.
Qui fait de la radio.
Qui fait de la radio, justement. Et quand on l'a rencontré une fois, si on écoute son poste, il parle qu'il a rencontré notre père dernièrement. Fait qu'il y a quelques petites affaires qui changent, qui avancent au fur et à mesure.
Oui, il y a beaucoup de clins d'œil aux anciens Fallout, donc avec beaucoup de musique là, typique style années 20-30.
Années 50-60. Parce qu'en fin de compte, ce qui arrive, c'est que c'est comme si à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la bombe atomique était tombée sur Washington au lieu de tomber au Japon. Bon, c'est ce qui arrive et c'est pour ça qu'on reste dans le monde des années milieu des années 40, début des années 50. Donc, c'est ce qui est resté.
Et toi, Vincent, là, au côté du point de vue du scénario, là, est-ce que tu as trouvé que c'était immersif, tu as trouvé que c'était intéressant ou c'était un peu.
Moi, au niveau du scénario, je suis quand même assez. Je suis impressionné, c'est certain que les quêtes sont intéressantes. Le petit bug un peu qui m'est arrivé, c'est que, je fais des quêtes secondaires un peu par-ci par-là. Je me ramasse à un endroit dans un petit village ou une partie de ville et. Deux quêtes secondaires de fil que j'ai eues, me sont arrivées à peu près avec le même type de scénario, du style, le personnage me dit, c'est post-atomique, là, je dois faire des expériences. Est-ce que tu pourrais aller chercher quelque chose pour moi à tel endroit?
Oui, chercher tel objet et ramène-le.
Les deux, c'était de faire des expériences. Je me disais, est-ce que ça aurait pas pu être une expérience, un autre, je sais pas, moi. J'ai perdu mon enfant. Bon, ça peut peut-être arriver aussi, je l'ai pas encore vu. Mais
On n'en sort pas, il y a toujours des thèmes qui reviennent.
C'est ça. Les thèmes sont récurrents un peu. En tout cas, de ce que j'ai vu, peut-être c'est un hasard que je sois tombé sur ces deux quêtes-là comme ça.
Mais je pense que la force de ce jeu-là, c'est qu'on peut résoudre ces énigmes-là ou ces problèmes-là de différentes façons.
Oui, c'est ça
qui est la force.
C'est quand même bien, puis on peut répondre aux gens de différentes façons également. Ce qui nous donne du karma ou nous en enlève également au fur et à mesure.
Et aussi, une autre chose, c'est que si vous investissez dans des statistiques, plus au niveau charisme ou tout ça, social, là, ça va vous ouvrir des façons de régler certaines quêtes sans...
Des façons de parler. Là.
C'est ça, tandis qu'il y a des jeux où ça vaut rien. Tu mets tous tes points en physique parce qu'à la fin du compte, tu te bats tout le temps.
Oui.
Alors, dans ce jeu-là, ça vaut quelque chose.
Mais moi, mon karma présentement, mon charisme n'est pas très très haut parce que j'ai vu que j'en ai perdu une coupe en allant voler des objets ou des choses comme ça. J'avais besoin de sources médicales pour me remonter un peu en vie.
C'est la survie.
Alors,
c'est
la jungle. Pour la jouabilité, très très bon, ça se fait très bien. On a un choix d'armes intéressant. Si on compare avec Morrowind ou Oblivion, où c'est que c'était plus médiéval, alors là, on avait seulement des armes de poing. Là, on a finalement des armes à feu, des choses comme ça, des armes même futuristes, qui est très intéressant. Et pour se battre, on n'a pas seulement à tirer un peu partout, il y a aussi le système de combat qui est le système de visée assistée Vault-Tec. On pèse sur un bouton et tout devient au ralenti. On choisit la partie du corps de l'ennemi qu'on veut tirer, par exemple, avec une arme. Et dépendant de la partie du corps qu'on prend, la tête, le bras, ça va affecter cet ennemi-là. Si c'est le bras, il peut laisser tomber son arme ou il peut avoir de la difficulté à utiliser son arme. Si c'est la tête, il peut être un petit peu mélangé sur ce qui se passe. Donc, c'est super intéressant. Et tout ça se fait au ralenti. C'est extrêmement bien fait. Ce qui rend le jeu intéressant aussi au niveau de... des combats, parce que au niveau du combat, le tir, c'est pas toujours évident de viser sur un des personnages si on n'est pas en arrêt comme ça.
Ouais. Faut pas oublier une chose, c'est que c'est un jeu de rôle, hein. Donc ce n'est pas un jeu d'action, un FPS. Donc c'est toujours vos statistiques qui vont déterminer si vous allez toucher ou pas. Enfin,
oui, en plein ça, toucher avec un niveau de gravité différent, ouais, d'un coup à l'autre.
Donc ça se joue pas comme un FPS, ça, c'est très important de le dire.
Oui. Rapidement, en terminant, ben beaucoup de points forts. Premièrement, c'est un jeu de Bethesda. La qualité graphique excellente, ça laisse le soin aux joueurs de choisir ses armes de poing ou les armes futures. Un monde assez vaste, et on ne cogne pas sur des murs invisibles, à moins de s'en aller à l'extérieur de la carte, bien sûr. Un humour plutôt cru, un humour à la Fallout, avec des mots vulgaires en anglais, mais qui nous font rire. Puis un temps de jeu quand même de 20 heures pour la quête principale, plus de 100 heures peut-être en additionnant les quêtes secondaires. Pour ce qui est des points faibles, ben l'utilisation de la carte, pas évidente. La boussole là, pour se déplacer, c'est des couleurs monochromes, c'est pas facile de voir, puis les quêtes, comme je disais, qui se font parfois, qu'on dirait qu'elles ont le même scénario.
Mais ça, c'est la version Xbox. Moi, j'ai commandé la version PC, puis j'ai hâte, je vais peut-être revenir là-dessus. Là,
oui, mais j'ai hâte de voir aussi, comme je vous dis, c'est bien sûr, j'ai testé la version 360. Moi, ma note finale, en fin de compte, là, c'est un 8.5, 9 sur 10, là, parce que, bon, j'ai descendu un peu à 8.5, parce que j'ai été déçu, justement, d'avoir eu un scénario semblable dans une quête, mais bon, entre 8.5, 9 sur 10, c'est un très bon jeu, ça vaut vraiment la peine de l'acheter.
Oui, il faut, par contre, mentionner là, le côté très mature de tout ça. Ça vise, ne donnez pas ça à votre jeune enfant, parce que c'est très gore, excusez l'expression. C'est vraiment, il y a beaucoup de sang, beaucoup de démembrement. Donc,
violence. Le langage
est extrêmement cru. Donc voilà, c'est pour adultes.
Et de la drogue aussi.
Oui, de l'usage de la drogue. D'ailleurs, il y a un cas de censure en Australie par rapport à ça.
Alors, c'est ce qui m'a fait ma chronique. On va passer en musique, François.
Oui, merci Vincent. Donc, une petite pièce de Capitaine Révolte. C'est une reprise de la Compagnie Créole. Devinez, c'est quoi?
Non.
Ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait vivre les oiseaux et danser les écureuils. Ça ajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait vivre les oiseaux, vivre les oiseaux, vivre les oiseaux, vivre les oiseaux, vivre les oiseaux. Une chanson d'amour, c'est comme un loupé dans l'avion. Ça fait pas pour le cœur. Une chanson d'amour, c'est le si j'aime en maison. Depuis que je peux pas t'aider, t'es en lévitation.
Il y a la pluie dans ta vie et l'amour ton cœur.
La musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour les jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique un matin qu'on reprend tout son cœur. Ça fait vivre les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça ajoute les couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, rire les oiseaux, rire les oiseaux, rire les oiseaux, rire les oiseaux.
De revenir chez toi, tête pleine de souvenirs. Le soir, bienvenue et du bon moment de plaisir. Bienvenue chez toi, et tu veux déjà repartir.
Retour à l'aventure,
s'il y a du gris dans tes nuits, le soir te fait peur.
La musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique, le soir qu'on reprend tout son cœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça ajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, rire les oiseaux.
Your bays are below, chief telegram.
déjà l'heure de la chronique avec Christian. Et si vous êtes intéressé par un petit prix, juste pour vous dire, Christian va nous parler d'un livre de jeu de rôle dans quelques instants. Et vous êtes intéressé à le gagner, ce livre-là, bien 418-529-9026. Vous appelez à CKIA. Donc 418-529-9026. Et il y aura une question, Christian.
Bon, une question très simple, une question ouverte. C'est quelle est votre classe favorite à Donjons et Dragons?
Hein? Ah, alors les spécialistes pourront nous appeler. On vous entend vos appels. Christian, tu nous parles?
Oui, ben je vais vous parler justement de ce livre-là qui m'a été envoyé justement par Mongoose Publishing. Et donc, c'est une série qui renaît de ses cendres. C'est la série des Quintessences. Là, c'est un livre en anglais, donc le Quintessential Wizard. C'est le premier volume d'une série pour la Donjons & Dragons. Donc, c'est un supplément pour la quatrième édition de Donjons & Dragons. Qu'est-ce qui est particulier de cette série-là? La force, c'est que ça ouvre beaucoup de possibilités à une classe et ça encourage beaucoup le jeu de rôle. Ce qui manque, malheureusement, si on se fie simplement aux versions de base, aux livres de base de Donjons & Dragons, moi, ce que je déplore, c'est que c'est très, très mécanique, c'est très, très générique. Par exemple, tous les mages vont se ressembler en bout de ligne parce que c'est les mêmes sorts, les mêmes habiletés, tout le monde prend les mêmes, en tout cas. Alors que ça, le but de ce livre-là, c'est de vous offrir, par exemple, des origines qui vont vous donner, des fois, des petites caractéristiques, mais des petits malus aussi, des petits bonus. Et donc, il n'y a rien de qui va débalancer. Souvent, c'est la crainte d'un maître de jeu avec ce genre de supplément-là, c'est est-ce que ça va débalancer la classe? Et puis là, je vais... ça, c'était le problème dans la version 3.5.
Dans Donjons & Dragons, j'ai l'impression qu'il faisait ça. Hein, quand il sortait des suppléments, c'était comme pour booster cette classe-là. Donc là, les gens qui jouaient, mettons, le voleur, ils allaient acheter le supplément du voleur, puis là, ils venaient au maître du jeu, puis le gars, j'aimerais ça qu'il invente toutes ces skills-là.
C'est ça, exactement. Donc, ça devenait... Et je pense que c'est ça qui a tué un peu la version 3.5 de Donjons & Dragons. Et disons que Wizard of the Coast, la compagnie là a resserré ses critères pour les éditeurs externes comme ça pour éviter ce genre de dérapage là. Mais cette série là de Mongo, c'est ça qui les a mis sur la carte et qui est une des rares compagnies à avoir survécu au crash de Donjons & Dragons là, édition 3.5. Alors donc ils ramènent ça, mais cette fois-là la nouveauté c'est qu'ils l'ont donné à contrat à un éditeur italien qui s'appelle Asterion et donc le livre a été fait par Marco Piccone. Et donc, une équipe, toute une grosse équipe aussi de designers. Et ça paraît, le contenu est très solide. L'équipe de développement était très, très grande. Et entre autres, on sait que les Italiens font de très belles illustrations. En tout cas, il y a Frazetta, qui est un des classiques là, pour justement le fantastique médiéval. Donc, il y a énormément d'assez belles illustrations. Le livre est en noir et blanc, il faut le dire. Ce n'est pas du papier glacé, rien. Mais il reste que, en général, là, il y a de très belles illustrations, ça pour le mentionner, parce que Mongoose, parfois, c'était pas toujours la très haute qualité à ce niveau-là. Là, cette fois-ci, c'est un gros plus pour ça. Le livre aussi est très lisible, très bien organisé, très bien arrangé. Donc, je termine en vous disant qu'il y a des trucs sur les... vous avez des chemins de paragon, qu'on appelle. Donc, comme je disais, des origines, 70 nouveaux pouvoirs et plus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Il y a des runes, et aussi comment faire des tours. Il y a des groupes, des associations de mages. Donc, on pourrait continuer comme ça. Bref, je vous le recommande, mais peut-être vous assurer d'avoir l'accord de votre maître de jeu quand même avant d'acheter ce livre-là.
Et de l'utiliser.
Voilà. Donc, je dirais que une note, je dirais, là, évidemment, c'est très, très niche, hein, on s'entend. Là, c'est un livre qui développe une classe dans un jeu de rôle particulier. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais la clientèle cible là, va adorer ce livre-là. Là, je dirais un 8.5, moi aussi sur 10.
Et un petit mot, Christian, sur ta dernière fin de semaine?
Ben oui, justement, samedi, donc, on était à Plessisville. Donc, pour...
Joue à tout.
Joue à tout, voilà. C'était une activité organisée et c'était vraiment bien. Ils ont une des plus belles salles. Ceux qui font le circuit au Québec là, de ce genre de journée ludique, là, le disent souvent à Hélène, l'organisatrice, elle me disait ça. C'est, écoutez, il y a un foyer. Là, malheureusement, on n'a pas eu le temps de l'allumer, mais souvent, en fin de soirée, on l'allume. Foyer en pierre. Donc, en tout cas, c'est une grande salle. Il y a un service. C'est vraiment extraordinaire. On était quand même, c'est dur à dire, là, mais peut-être proche d'une quarantaine de personnes. Puis, j'ai joué à plein de nouveaux jeux. Il y avait une bonne sélection de jeux.
C'est bien avec Journée Joue à tout. C'est un, c'est un mélange entre les plus jeunes et les plus vieux, là.
Oui, c'est ouvert, c'est gratuit, donc c'est, il y a,
ouvert aux familles.
Il y a des familles, oui, qui viennent comme ça, passer peut-être une heure, mais il y a aussi des, on était une petite gang de Québec, des joueurs très, très sérieux qui sont là. Il y avait aussi, justement, des éditeurs, ou en tout cas des distributeurs, dont le créateur de, tu me disais le
Ah, Boom Patate.
Boom Patate, oui.
Olivier Lamontagne.
Olivier Lamontagne, voilà. Mais ça va être renommé, finalement, qui me disait, je pense, Poutine. Ça va s'appeler Poutine, là, vraiment. Et je l'ai testé, on a testé le prototype. C'est vraiment intéressant. On a
oui, parce qu'il s'était fait dire, à part un français, qu'il n'y avait pas de jeu sur la poutine. Tu sais, la poutine, c'est comme un trait de caractère culturel du Québec.
Oui, il faut.
Donc, c'est important d'exporter la poutine par la nourriture, par la gastronomie, mais aussi par les jeux de plateau.
Par les jeux, oui. C'est vraiment réussi, là, l'ambiance d'un espèce de casse-croûte, là, où tout va vite, il faut répondre aux caissières. C'est vraiment tordant, là. C'est un jeu de party hallucinant. Moi, c'est pas mon style, mais j'ai embarqué, là. C'est la preuve que je pense que ça va être leur meilleur jeu, je pense, pour, en tout cas, à date, que je connais.
Parce qu'il va être édité par Repoprod?
Ça, je suis pas sûr. Okay, je veux pas, non, je veux pas m'avancer là-dessus. J'ai pas
non, je pense, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il était pas, édité.
Ben, moi, moi, il me disait qu'il était en phase finale et qu'il va être édité.
Ah, okay.
Oui, tout à fait.
C'est bon.
Mais, je peux pas dire exactement par qui, quand, comment. Mais, oui, il me disait, que ça allait sortir prochainement.
Alors, merci beaucoup, Christian. On va passer en musique juste avant la fin de l'émission, François?
Oui, donc une petite pièce de Call Me Poupée, tout simplement. Appel interurbain.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Toujours sur les ondes de CKIA et c'est déjà la fin de notre émission. Donc on va passer rapidement à l'agenda, François.
Effectivement, donc évidemment pour tous les geeks, sortez de votre sous-sol et dirigez-vous demain, mardi, c'est les parties de Go au Café Aga à partir de 19h. Sinon, le 8 novembre prochain, ça va être la journée mensuelle de l'équipe des Seigneurs de la Guerre de l'Université Laval. Donc, il y a des jeux de plateau, des jeux vidéo, des jeux de rôle, tout ça au pavillon La Certe. Sinon, le 8 au 9 novembre, évidemment, c'est la parade des jouets sur la rue Saint-Joseph. Alors, si vous êtes parents, vous avez des enfants et vous voulez aller vous amuser sur la rue Saint-Joseph en fin de semaine, ça va être la place où aller. Si vous avez des jouets usagés, vous pouvez les donner et les pompiers vont les ramasser. Il va y avoir des gros camions de pompiers géants pour les tout-petits, des promenades de train en électrique. Et pour les parents nostalgiques, il va y avoir une partie disputée par des ex-nordiques.
Ouh yeah!
Donc, des vrais ex-joueurs des Nordiques. Donc, qui seront ces joueurs? La compagnie ne se prononce pas encore. On va le savoir demain. Et comment vous allez pouvoir savoir quel joueur des Nordiques il va y avoir sur la rue Saint-Joseph le 8 et 9 novembre? Ben, vous synthétisez lepuissancemaximale.com, puis vous allez le savoir en primeur. Sinon, cette même fin de semaine-là, il y a aussi la Fiesta Ludique à Montréal. Sinon, il y a aussi le Festival du jeu vidéo Arcadia le 7 au 9 novembre. Et évidemment, à Québec, il y a tous les jeudi et vendredi, il y a les parties de Magic. Mercredi, samedi, c'est les Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40 000. Le dimanche, c'est Yu-Gi-Oh! Le mardi, à la Ninkasi, au bar de la Ninkasi, c'est les parties de hockey sur Wii. Et sinon, bien sûr, vous allez nous rejoindre après cette émission merveilleuse. Nous nous dirigeons vers le restaurant dit L'Abraham Martin et nous allons jouer à des jeux de plateau.
Et oui, L'Abraham Martin qui se situe dans l'escalier entre la Côte d'Abraham et la rue Saint-Vallier, c'est bien ça, oui.
Précisément.
Et juste pour vous dire, vous voulez réécouter cette émission, mais vous allez sur le www.puissancemaximale.com ou sur lepetitpeuple.fr. Alors, merci à Alexandre Bélanger, merci à Martin Bouchard, Christian Lacroix, merci d'avoir été ici cette fin d'après-midi. Merci à toi, François, également.
Merci à toi, Vincent.
Ça m'a fait plaisir. Et l'émission qui suit, c'est Homologue. Juste le temps de vous dire à tous et à toutes une bonne semaine.
I got my 12-sided die and I'm ready to roll with the wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before.
Nope.
Mm. Woo! All right. Take it home.